d'affolement. Nous voilà.
Bonjour, bienvenue à cette 41e émission Pas d'affolement, nous voilà, sur Radio Entre deux mers, 98.4. C'est notre 4e anniversaire.
Les personnes présentes, Valérie, Sévia, Brigitte, Jean-Louis, Béatrice, Guillaume, Francis à la technique et moi-même aussi.
Notre invité aujourd'hui, Gérard Chargeresse, du musée des allumettes de Fontay. Bonjour,
bonjour,
monsieur. Comment vous est venue cette passion de faire des représentations en allumettes?
Alors, cette passion, elle est venue tout simplement que quand il a fallu que j'arrête de travailler. J'ai travaillé 18 ans dans la ferronnerie, la fer forgée. Il a fallu arrêter de travailler. Et puis, il est devenu un déclic dans la tête. J'ai vu quelque chose sur le journal, la Tour Eiffel par exemple, et je me suis dit pourquoi pas la faire en allumette. Et j'ai commencé à faire une Tour Eiffel en allumette, tout simplement par ça. Et après, tout est venu. Mais il faut qu'il y ait un déclic au départ qui se forme. Voilà, c'est. Disons que, si vous voulez, c'est l'arrêt de travail, si vous voulez, le choc qui m'a fait ça et qui m'a fait faire. Basculer sur ça, quoi. J'aurais pu dériver autre chose, mais j'ai pris cette voie.
Merci beaucoup, c'est une belle passion,
oui.
Culturelle en plus.
Voilà.
Depuis combien de temps est ouvert le musée?
Depuis quand? Ça fait 25 ans qu'il est ouvert le musée. Oui, 25 ans. Alors disons que j'ai commencé en premier lieu à commencer à faire des expositions à droite et à gauche. J'ai arrêté parce que c'était assez pénible. Pour partir, il fallait partir le week-end, tout ça. Et après, avec trois copains, on s'est mis, on va monter un musée. Et on a monté un musée. Voilà, puis ça fait 25 ans qu'on tourne.
En dehors des allumettes, que trouvez-vous dans le musée?
Alors, qu'est-ce qu'on trouve en dehors dans le musée? Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve beaucoup de choses en dehors dans les allumettes, c'est-à-dire que il y a Guy, tout simplement, qui est à côté de moi, là, Thomas. Voilà. Et disons que lui présente tout ce qui est l'outillage agricole dans les années, on va dire que ça commence dans les années 30, même plus, 30 jusqu'à 60, même avant 30 même, disons. Et c'est lui qui a ce rôle de présenter tout ça, c'est le guide, on va dire, qui explique à toutes ces personnes, disons, c'est la nostalgie des anciens outils d'autrefois, quoi. En plus, il n'y a pas que des outils, il y a tous les animaux, tous les animaux qui ont été empaillés, qui expliquent tout ça à tout le monde, voilà.
Quelles sont les qualités requises pour cette passion?
Pardon?
Quelles sont les qualités requises pour votre passion des allumettes?
Quelles sont les...
Les qualités reprises, requises.
Beaucoup de patience.
Ça demande de la patience, de la persévérance.
Disons que.
De la minutie.
Oui, voilà. Disons que. Pour faire cette passion, cette préférence, tout ça, il faut avoir. Il faut avoir la passion. Il faut avoir beaucoup de choses dans les mains. Hein, disons que moi, j'avais. Des monuments d'allumettes que j'avais fabriqués. Et disons qu'après, on va dire. on a voulu mettre quelque chose de plus passionnant. Disons, amener quelque chose de surplus. Voilà, c'est ça, c'est une continuité. Mais à faire du surplus, comme on fait toujours du surplus.
Où est situé le musée ?
Alors, le musée, il se situe à Fontaine, tout simplement, à côté de l'Ariole, à, disons, à 2 km de l'Ariole.
Merci.
En 25 ans, quelle est l'évolution du musée ? En 25 ans, quelle est l'évolution du musée ?
Ah, l'évolution du musée... Ben, à l'heure actuelle, on évolue sur le... On a évolué sur le jeu de lumière. Voilà, maintenant, cette étape, cet hiver, on a fait des jeux de lumière. On a monté des jeux de lumière pour les monuments et tout.
Est-ce qu'il existe les autres musées en France ?
Il y a d'autres musées en France, mais disons que c'est du petit, hein, c'est de la maquette, on va dire, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Pour ce qui est de ça, c'est le seul unique musée en France de cette nature. Hein. Voilà, il y en a plusieurs, mais différents, plus petits.
Nous allons écouter maintenant le texte sur les enfoirés.
De Sicilienne.
Merci. Spectacle des enfoirés. Nous sommes allés à Bordeaux en voiture voir les enfoirés 2019. Nous sommes arrivés à 9h15. Nous avons attendu dehors jusqu'à 10h45 sous la pluie et le vent. Ils ont ouvert les portes et nous sommes rentrés dans la salle. Nous étions nombreux dans la salle qui se nomme Arkea Rena. Nous étions debout au fond de la fosse. Le spectacle a commencé à 12h45 jusqu'à 17h. Ils ont mis deux écrans pour que tout le monde voit. J'ai vu Florent Pagny, Jennifer, Les Inconnus, Patrick Fiori, Patrick Bruel, Jean-Louis Aubert, Amir, Soprano, Mimi Mati, Nolwenn Leroy, Taz, Zaz, Benabar, Kenji, Liane Fouli, Laurie, Slimane et Clodo Capello. Comme chanteur, j'ai aimé Soprano, Florent Pagny et Tal. Dans la salle, il y avait une sacrée ambiance formidable. Ils changeaient leur décor en 5 minutes. Leur lumière était de toutes les couleurs. Merci.
Nous allons écouter maintenant l'interview de Ferdel d'un rencontre, café rencontre au centre hospitalier de Cadillac, Pierre Perret-Poët.
Bonjour Michel Peyret. Qui êtes-vous exactement en quelques mots ?
Bien, je suis donc Michel Peyret, né le 6 novembre 1936 à Bordeaux. Je fais donc de la poésie, de l'écriture, du dessin et de la peinture depuis toujours. Voilà. Et pour ainsi dire, mon parcours a été très, 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 très imagé, très, très aussi versatile, parce que j'ai traversé des moments très pénible à la mort de mon père qui est mort à l'âge de 44 ans. J'avais 9 ans et demi, que je n'ai presque pas connu, et qui était un excellent chanteur. Il chantait d'ailleurs sur les marches du Grand Théâtre à Bordeaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la radio, vous savez, il n'y avait pas les... On connaissait les chanteurs de rue. Alors mon père était un chanteur de rue, qui avait une voix absolument magnifique, qui chantait des airs d'opéra et des airs d'opérette, voilà. Et je viens d'une famille très modeste, voilà. Surtout ça, le départ d'une famille très, très, très modeste.
Vous avez été infirmier au centre hospitalier de...
Oui, j'ai été infirmier également, ici à Cadillac. J'ai été élève, donc, infirmier en 1968, et de 68 à 70, où j'ai étudié, où il y avait des cours, ici à l'hôpital central, qu'on appelait à l'époque, et aussi à Boissonnet, là-bas, au centre hospitalier spécialisé, que vous devez connaître. Voilà. J'ai été donc là pendant 3 ans, et suite à l'incendie de ma maison à Sainte-Croix-du-Mont, en 71, je suis parti dans les Pyrénées-Orientales pour oublier tout ça. Vous voyez, mon parcours a été... il y a eu des vicissitudes de l'existence qu'on vit, et donc ça m'a fait...
Une vie dure.
Une vie très dure. J'ai pas eu de chance dans ma jeunesse. J'ai été nouvellement marié lorsque j'ai eu cet incendie où j'ai perdu beaucoup de choses, notamment des peintures que j'avais faites sur la tauromachie, tout ça, et tout ça est perdu, quoi. J'ai essayé de recommencer à faire de la tauromachie en peinture, mais j'ai perdu un peu le fil. J'ai perdu un peu le fil parce que je me suis consacré uniquement au paysage. Voilà. Donc j'ai été infirmier, donc ici, à Cadillac, à l'hôpital central et à Boissonnet. De là, je suis parti dans les Pyrénées-Orientales, où j'ai été dans un centre psychothérapique qui s'appelle le Léon-Jean Grégory. Là, j'ai eu une maîtrise de... J'ai eu une autre maîtrise de psychiatrie, voilà. Et donc, de psychothérapie, exactement. Voilà. J'ai eu une maîtrise de psychothérapie, voilà.
Donc totalement autodidacte, alors, au niveau de l'artistique.
Oui, totalement autodidacte, totalement.
Et alors, beaucoup de dons multiples, la peinture...
Des dons multiples, oui.
Peinture, musique, littérature, beaucoup...
Le chant, la musique, le chant choral, tout. Ouais, c'est vrai. C'est de famille, ça. Mon frère chantait, ma soeur chantait, mon père chantait, ma grand-mère chantait. Tout le monde chantait dans la famille, c'est curieux, mais c'est comme ça. Mon nom est d'origine béarnaise. Peyre, ça vient de Peyra, Pierre. Peyre, c'est la pierre, vous voyez. Je suis un lointain neveu de Joseph Peyre, l'écrivain. Joseph Peyre, qui a écrit, qui a été pris Goncourt en 1968, voilà, je crois.
Et alors, quelqu'un disait, là, dans les débats qu'on a eus, il y a 20% d'inspiration et 80% de sueur.
Ah, ça, c'est sûr.
Beaucoup de travail, au niveau de la poésie en particulier.
Beaucoup de travail.
Et quel genre de poème ?
Tout. Les poèmes, la poésie, essentiellement, c'est sur la vie de tous les jours. Sur Bordeaux, j'ai fait des poésies sur le phare de Cordouan. J'ai fait également La chasse à la palombe. J'ai une foule de poésies, pas seulement que sur les paysages. J'ai fait
un peu tout sur la Gironde, j'ai trouvé. C'est très très bien.
Surtout pour la Gironde, oui, j'ai vécu dans la Gironde. J'ai fait aussi pour les Landes. J'ai fait également aussi pour les Pyrénées orientales, là j'ai vécu 7 ans. J'ai écrit beaucoup pour les Pyrénées-Orientales, oui aussi, oui.
C'est un point commun avec moi, je connais un peu, côté d'Argelès.
Oui, Argelès, Port-Vendres,
Saint-Cyprien.
Collioure, Saint-Cyprien, etc., je connais ça. Thuire également, Perpignan, évidemment, voilà. Oui, j'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup écrit là.
Et alors vous êtes inspiré, parce que vous avez beaucoup lu des grands écrivains, Lamartine, Hugo...
Oui, celui qui m'a inspiré le mieux, c'est Lamartine. Après, ça a été Victor Hugo, parce que Victor Hugo était très... c'est un monument, hein, Victor Hugo. Hein. C'est un monument. Hein. Il n'était pas qu'écrivain, que poète. Hein. Il était aussi un grand écrivain. Hein.
Voilà. Un grand homme, je crois.
Un grand homme, voilà.
Oui, merci, Monsieur Perry.
Nous retrouvons maintenant un texte de Christine, La psychiatrie.
Je vais vous parler de la psychiatrie. C'est un établissement qui donne des soins pour des pathologies différentes. Il y en a un rayon. J'essaie de vous faire sourire malgré tout, car je sais que ce n'est pas facile pour moi et tant d'autres. Les soignants sont des perles. Les médecins apprennent à vous connaître, vous donnent un traitement. Surtout à l'extérieur, ne pas oublier de le prendre. Mais d'habitude, quand on sort, c'est qu'on va mieux, donc on vous allège le traitement, même en cours d'hospitalisation. Parfois, un psychiatre est opposé à votre décision d'orientation. Il croit que le mieux pour vous, ce n'est pas de rentrer chez vous, mais d'accéder à un foyer médicalisé. Il y a des listes d'attente énormes, mais bref, il y a dans l'hôpital des services d'admission, comme Pinel et Broca, et des services perfectibles comme Trella et Deux Maisons. Moi, je suis proche pas du tout de la sortie parce que malgré tout que j'ai eu des entretiens avec des psychiatres à l'extérieur, on me trouve pas encore assez stabilisée pour avoir un studio en appartement et je suis très triste. J'ai une chambre minable. Elle n'est pas minable, mais c'est que le lit est contre et que j'arrive pas à faire mon lit, ça me déstabilise. D'habitude, j'y arrive toujours. Mais là, voilà. Bon, bref, je suis pas très bien dans mes baskets en ce moment. C'est pour ça que je vous parle de mon lit, parce que j'ai mis ma dans un lit propre. J'espère pour vous que vous ne reviendrez plus jamais en psychiatrie. Et si vous rechutez une fois ou deux, ce n'est pas grave. Ne faites pas les mêmes erreurs à chaque fois. Restez positif. Surtout, restez positif. Merci beaucoup.
Je vous propose d'écouter la chanson des Restos par les Enfoirés.
Moi je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra fort les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nous nous peut-être grossir la liste.
Eh bien oui, nous vous rappelons que nous sommes toujours sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 pour cette 41e émission de Pas d'affolement, nous voilà. Avec nous, toujours notre invité, Gérard Gergerès. Alors Gérard, on reviendra un peu plus tard parce qu'aujourd'hui, c'est notre 4e anniversaire. Et pour chaque fois qu'il y a un anniversaire, moi je fais un texte. C'est comme ça. Et un texte, je vais vous le lire à tous nos auditeurs et à vous-même.
D'accord.
Je vous parlais comme tous les ans de notre anniversaire. Et oui, pas d'affolement, nous voilà à 4 ans. Nous rentrons dans la cour des grands, des émissions de radio les plus écoutées et les plus appréciées. comme chaque fois, un invité et des sujets où tout est abordé, excepté la politique, toujours d'actualité, mais aussi toujours tabou. Nos progrès sont fulgurants et les demandes d'autographes quasiment quotidiennes nous remplissent de joie, nous, les pionniers de la radio en psychiatrie en direct. Longue vie à l'émission. Et merci, Falré. Merci, Francis, notre journaliste superviseur, à qui il nous a fait sortir de l'anonymat. Pour conclure, si l'humour est présent dans ce texte, l'envie de progresser est réelle et de continuer à faire la joie des petits et des grands. Voilà. Après ce texte, eh bien merci, merci la foule. Alors, moi, je vais revenir à vous, Gérard.
Oui.
Alors, de quoi a-t-on besoin pour réaliser une œuvre ?
Ah, pour réaliser déjà une œuvre, c'est déjà, il faut bien réfléchir ce qu'on veut faire comme œuvre.
Oui.
Alors, je vais déjà prendre, une parmi tant d'autres. Disons qu'on va prendre l'abbaye des Méditerranées de l'Ariol, que tout le monde connaît, plus
oui,
ou moins.
Plus ou moins.
Voilà. Alors, donc, déjà, il faut commencer par demander l'autorisation.
Oui. Ah, oui.
Et oui, il faut demander l'autorisation, si on peut la faire, parce que ça, on n'a pas le droit de créer une œuvre sans autorisation.
Ouais.
Alors donc c'était le maire qui m'avait demandé, il y a 15 ans de ça, qui m'a demandé, c'était monsieur Castagnier, le maire Castagnier, qui voulait faire quelque chose. Donc il m'avait donné un choix, puis moi j'ai choisi celle qui était le plus représentatif pour la ville de l'Ariole. Et là-dessus, je lui ai demandé les plans, parce que je ne peux pas faire ça sans plan. Et une fois que j'ai eu fait les plans, il a fallu que je refasse tous les tracés. C'est-à-dire à refaire les tracés sur des cartons, c'est-à-dire à refaire toutes les côtes, parce qu'elle est faite au 1/25, alors qu'il a fallu que je tout réduire.
Ah oui.
Une fois que le tracé a été fait, disons que ça prend, pour faire rien qu'une façade de tracé, ça prend quand même 2 jours.
Ah oui, oui, c'est...
Voilà, une fois que tout est tracé, alors on pose les allumettes, tout ça. Alors comme œuvre, qu'est-ce que c'est ? C'est le carton, plus ou moins, du gros carton, qui sert de face pour appuyer, pour coller les allumettes.
Oui.
Alors après, qu'est-ce que c'est qu'il y a bon, il faut un crayon pour
oui,
tracer.
Ça. Oui, le plan.
Un plan, le plan, une règle, un oui. crayon. Après, qu'est-ce qu'il faut ben, un cutter pour couper, parce qu'il faut oui. couper.
Mais oui.
Après, il y a le mètre aussi. Mais disons que ce ne sont pas des gros matériel, quoi.
Oui, c'est pas coûteux, oui.
Voilà. D'accord. Disons que c'est à portée de tout le monde, quoi, tout ça.
La deuxième question, d'ailleurs, va porter... Oui, Valérie.
Est-ce qu'il y a des dangers à conserver des monuments en allumettes ?
Il y a des ?
Des dangers ?
Non.
De l'incendie
Ben,
c'est une sorte de farce.
Oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire.
Si vous fumez, par exemple
Non. D'abord, c'est interdit de fumer.
Oui, oui. Bon,
ça, c'est la première chose. Après, le danger, il y en a partout du danger. On peut faire ce qu'on veut. Le danger, le risque zéro, il n'y est pas. Mais disons qu'il y a des alarmes qui sont installés, il y a des coupes-circuits, systématiquement, dès qu'il y a quelque chose, ça se coupe systématiquement, il y a des trucs qui sont montés tout esprit. Après, bon, ben...
Elles sont inflammables.
Ouais.
Ah oui, c'est ce que je voulais savoir.
Voilà. Mais bon, il n'y a pas, après, le reste de danger. Si, on peut avoir que quelqu'un qui vient se bousculer, puis détériorer. C'est tout, c'est la seule crainte qu'on a. Mais après, bon, non, ça ne bouge pas. Voilà, c'est... Il n'y a pas trop de danger, on va dire. Faut faire attention.
Faut-il des connaissances en architecture ?
Alors, des connaissances en architecture, plus ou moins, j'en avais. Enfin, j'ai pas fait d'école d'architecture ni rien. Comme j'ai travaillé dans la ferronnerie, tout ça pendant 18 ans, et ça m'a permis de consulter, bon, mais comme on était dans le bâtiment, donc il y avait des rampes, on posait des rampes, tout ça, bon, mais ça. Ça va. Alors, donc, j'ai consulté ça, quoi. Mais disons que je n'ai pas d'architecture. J'ai appris, quoi, au fur et à mesure, tout seul, quoi.
Et alors, vous avez des réussites. Car quelles sont vos principales œuvres ?
Alors, ma principale œuvre, la réussite la plus belle, disons que c'est... Ben, le plus étonnant, c'est le... Il y en a deux. Enfin, ils sont tous bien. Mais il faut bien porter le cœur sur quelque chose.
Oui.
Bah. Disons que le premier, c'était la cathédrale de Reims.
Ah oui, beaucoup de rois étaient sacrés.
Voilà, il y avait tout le sacre des rois. Enfin, il y a eu plein d'histoires là-dessus. Il faut apprendre l'histoire en même temps. Hein. C'est pas tout de fabriquer, mais il faut apprendre l'histoire. Hein.
Oui.
Et la dernière, qui était la plus grosse, mais c'est le plus gros, c'est le château de Versailles. Quoi.
Ah oui, là aussi, il y avait un roi dessous.
Oui, là, c'est autre chose. Mais là aussi, il faut apprendre encore une autre histoire.
C'est... beaucoup de minutie et de travail dans tout ça.
Voilà, il y a beaucoup de recherches. Voilà. Il faut avoir des plans, il faut avoir beaucoup de documentation, il faut avoir tout, puis il faut avoir l'œil à tout, il faut suivre au fur et à mesure. Il ne faut pas se presser. Parce que comme le château de Versailles, ben, il faut bien se dire qu'on commence, mais on ne sait pas comment on va finir. Disons qu'au bout de 14 ans qu'on a fini, et c'est là où on s'aperçoit, ah tiens, il y a beaucoup de choses, on a mis beaucoup de choses, quoi.
Beaucoup de travail.
Beaucoup de travail, quoi. Voilà, beaucoup de réflexion, beaucoup de ceci. Bon.
Quelle est la plus grande œuvre que vous ayez faite ?
La plus grande œuvre, c'est le château de Versailles.
C'est
le château de Versailles, c'est le, disons que c'est le château de Versailles qui fait 64 mètres carrés. Vous voyez, ça fait plus grand que la pièce ici. Oui, et c'est la plus grande œuvre, c'est, disons que c'est le majestueux, c'est celui qui est le plus majestueux, de, disons, du musée.
Alors, ici, une question pour sortir du fil conducteur, il y avait des, vous faites l'intérieur aussi
Voilà, oui, il y a tout l'intérieur aussi, parce qu'il est fait à une dimension, disons qu'il est fait au 1/50,
oui.
Parce qu'il faut réfléchir ça aussi au départ, à quelle dimension on va le faire pour permettre aux personnes qui viennent, qui puissent voir l'intérieur.
Ah oui, c'est comme l'origine, alors.
Voilà, à peu près comme
à
l'origine.
Peu près, d'accord.
Il faut que ce soit à peu près, parce que quand on tombe sur des personnes qui viennent de Versailles, qui aiment bien beaucoup, qui connaissent le château de Versailles, et qui regardent, et qui ne s'y voient pas, comme c'est là-bas, là, on a droit à la réflexion.
Ah.
Il faut que ce soit à peu près... à, pas peut-être tout à fait, les tableaux, ils sont peut-être pas tout à fait à leur place initiative, mais ils sont là quand même.
Oui, tout à fait.
C'est ça, surtout qu'il faut regarder. C'est ça où il faut faire le plus attention. Parce qu'il y a des personnes qui connaissent vraiment Versailles.
Ah oui, ça je crois.
Et beaucoup, ça c'est un château qui est vraiment référencé, quoi.
Tout à fait.
Combien d'heures ça vous a pris ?
Alors, pour faire le château de Versailles, oh, ben 6000 heures. 6 000 heures, 14 ans.
C'est pas
six...
mal.
C'est pas mal.
C'est pas deux semaines de travail.
Ben, 6 000 heures, mais bon, faut pas croire que c'est 6 000 heures, que c'est des heures d'affilée.
Oui, je m'en doute.
Faut
oui.
Pas croire.
Faut dormir un peu, quand même.
Disons que quand on commence à avoir fait 2 heures le matin, par exemple,
oui.
On arrête.
Oui.
Disons que moi, je me suis fixé un but, on commence, on va aller dire, à 9 heures du matin,
oui.
Jusqu'à 11 heures.
C'est pas mal.
Et après l'après-midi, on fait de 15h à 17h, quoi, c'est tout.
C'est bien, c'est bien.
Et puis on s'arrête, parce qu'on ne peut pas aller plus loin.
Ah, c'est assez c'est astreignant, hein, oui.
Non, puis c'est là-dedans, c'est le cerveau.
Oui.
Il faut que ce soit dans le cerveau, là-dedans. Alors, voilà.
Faites-vous autre chose que des monuments ?
Non, je ne fais... Enfin, maintenant, je ne fais plus de monuments, si vous voulez. Disons que je suis passé dans notre quelque chose, mais plus petit. Disons que je fais des trucs pour faire des cœurs porte-bonheur, pour offrir. Je fais des tableaux aussi, peinture.
Peigné ?
Ah oui, ah oui, oui, mais moi, je disons que j'ai la chance que je suis comme ça, je ne sais pas comment ça se fait.
De l'or dans les mains.
Oui, je peux faire tout ce qui peut me passer entre les mains, je peux le faire. Ça, c'est un avantage que j'ai.
Justement, une question technique sur ça. Comment vous faites les arrondis, les détails de certains monuments ?
Alors, les arrondis, justement, j'ai porté des allumettes, tout simplement. Alors, voilà. Ce sont des allumettes, comme on m'a posé tout à l'heure, qui arrivent directement de l'usine, qui n'ont pas de soufre.
Ah oui, il vaut mieux, oui.
Oui, vous les connaissez, vous, dans la boîte d'allumettes, elles ont le soufre.
C'est fait pour ça.
Ben oui. Et là, elles n'ont pas de soufre. Alors, par contre, il me faut une grande pince. Alors, ce n'est pas des pinces que vous trouvez ailleurs, si vous en trouvez à le commerce. Mais ce sont des pinces, disons, de chirurgien. Parce que c'est pour tenir. Alors, si vous voulez faire un plaisir à une dame, pour qu'elle vous rende le grand sourire,
oui.
Parce que ça, alors, c'est tout simplement pour leur faire un petit cadeau, tout simplement.
De temps en temps, oui, il faut.
Oui, disons. Alors, prenez une allumette, comme ça. Voyez, vous faites ça tout doucement.
Ah, la ramouture.
Vous voyez ?
Oui.
Elle ne se casse pas.
C'est comme ça que vous faites les arrondis. Ah oui, d'accord.
Voilà. Elle ne se casse pas. Parce qu'il suffit de la panne dans le sein du fil du bois.
Ah oui, oui. C'est tout à l'heure.
Oui. Parce que d'abord, mesdames, je vais vous poser aussi. En quoi sont-elles faites les allumettes ? En quel bois ?
En pain ?
Non, en quel bois ? Quelque monsieur chose que vous connaissez.
Ah, un peuplier, là.
Voilà, mais peuplier. Monsieur, vous n'êtes pas une dame, c'est malheureux. C'est dommage.
Moi, si. C'est un peuplier.
Non, je rigole. Non, non, vous savez pourquoi c'est un peuplier, mesdames? Parce que quelque chose que vous avez déjà vu. Parce que tout ce qui est droit peut plier.
Ah, vous avez aussi le sens de l'humour.
Voilà, alors on va continuer sur notre lancée pour faire plaisir à ces chères dames. Vous voyez oui, mais il ne faut pas trop le faire parce qu'après.
En vrai, elle demande trop.
On n'en sort jamais après. voilà. Vous voyez. Ça, c'est. Disons que quand ces chères dames la râlent, qu'elles ne sont pas contentes avec nous, pourquoi on ne sait pas. C'est des choses qu'on ne peut jamais arriver à savoir.
C'est des mystères. Hein, c'est des
Francis, mystères. Il m'en a demandé un jour parce que justement, il avait un petit problème avec madame. Ah. Et je ne sais pas ce qu'il y avait fait.
Mais il ne dit pas tout. Hein.
Alors je lui ai dit, Francis, c'est facile. Tiens, tu voilà, je te t'offre quelque chose. Te voilà, quelque chose. Oh, tu mets dans la colle, brûle chaque côté. Et puis tu lui dis, tiens, chérie, je t'offre mon cœur en allumette. Et madame lui a ranimé sa flamme.
C'est bon à savoir. Hein.
Voilà. Et tout ça, c'est fait en allumette. N'est-ce pas, Francis? Si tu veux, je te la laisse. Voilà, bon, mais voilà, je l'offre à madame, alors, puisqu'elle est là-bas.
Merci, voilà. C'est très gentil.
Alors ça, c'est pour faire un petit cadeau à ces chères dames. Comme ça, disons qu'elles ne sont plus calmes, râlent moins.
Vous savez parler aux femmes, hein.
Mais il y en a d'autres. Si vous voulez, il y en a d'autres là. Vous êtes
spéciaux.
Voilà. Voilà, il suffit de parler.
Voilà. Et alors, oui, il y a des outils spéciaux, comme disait Jean lui, mais il y a aussi une question, bon ça on a bien compris, mais avez-vous fait des expositions avec vos œuvres?
Alors, oui, j'ai fait des expositions avec mes œuvres, mais disons qu'il y a, 25 ans de ça. J'ai fait, il y a 25 ans de ça, disons que j'étais un peu partout, disons à Bordeaux, dans les Landes, du côté de Carcassonne, tout ça quoi.
D'accord, c'est très complet. Merci, le temps passe. Nous allons passer à Jean-Louis. Jean-Louis qui va... Alors Jean-Louis.
Oui, je vais vous parler de l'Enduropal ex-Touquet. Pour le départ, dimanche 3 février, il y avait 1200 participants en moto et 200 en quad pour une course de 13 km environ sur la plage, soit 2h à 3h de course avec 3 passages au stand obligatoires. Une particularité de cette course, c'est que le premier participant à faire le hot shot a droit à une prime. Le hot shot est le premier participant à effectuer le premier virage. Pour les quads, le départ se fait deux fois par groupe de 100. Le premier a pris un peu d'avance, mais suite à une faute est tombé. Du coup, il s'est fait doubler. Malheureusement, en suivant, celui qui venait d'être le premier a cassé son moteur et a dû abandonner. À moto, départ pour deux manches de 600 personnes. Le hot shot a été très serré. Un pilote a failli faire un tout droit tellement il arrivait vite. Dans le deuxième tour, un bouchon s'est créé et les poireaux, le dernier, ont coupé. Mais le premier les a suivis sans l'accord du commissaire de course. Et a donc écopé d'une pénalité d'une minute. Un des favoris est tombé deux fois et la course s'est arrêtée pour lui. Résultat, en moto, le premier, Nathanael Wenson. En quad, le premier, Mathieu Technique.
Merci Jean-Louis. On continue dans le sport avec des interviews réalisées au Jumping de Bordeaux par Christelle, infirmière et thérapeute par le cheval à Cadillac. En particulier, nous allons écouter Nicolas Morticorena et Andy Pout. Allons-y.
Donc, je suis en direct du Jumping International de Bordeaux, où je suis en compagnie de Nicolas Morticorena, qui est cavalier professionnel, marchand de chevaux. Bonjour Nicolas, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre métier ?
Bonjour à tous, je suis cavalier pro. Voilà, je cours les 1m40 en essayant de progresser pour faire un peu plus. Et à côté de ça, je suis marchand de chevaux et marchand de chevaux de sport toute l'année en Aquitaine, où je vends dans toute l'Europe ou même dans tout le monde entier.
D'accord. Et vous êtes installé sur quelle commune précisément ?
Je suis installé à Préchac, à côté de Bordeaux, au sud de Bordeaux. Voilà, une propriété familiale.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre venue aujourd'hui au jumping? Donc vous avez coaché vos deux nièces, si j'ai bien compris?
Oui, j'ai mes nièces qui ont réussi à trouver un sponsor qui est Eiffage, parce qu'il faut un sponsor quand même de 8000 euros pour participer aux épreuves amateurs de jumping de Bordeaux, où elles ont réussi à trouver. Et je les ai coachées, je vais les coacher aujourd'hui et tout le reste du week-end.
D'accord. Pouvez-nous dire comment sont passées leurs épreuves aujourd'hui ?
Ben, on va dire pas très bien. Contrairement au concours habituel, beaucoup de stress. Elles n'ont pas monté comme elles ont monté, donc j'en ai sur 3 cavaliers. J'ai un garçon qui est éliminé, j'ai une fille qui a fait 3 barres et ma nièce qui a fait 2 barres. Donc voilà, donc demain ça devrait aller mieux, on a vu comment c'était. Voilà, c'est comme ailleurs, mais il faut enlever le stress.
Ok, super, ben merci beaucoup, on va leur souhaiter bon courage alors et puis bonne chance. Et puis on vous remercie pour l'interview.
Merci à tout le monde.
Pas d'affolement. Voilà.
Donc je suis toujours en direct du Jumping International de Bordeaux et je suis en compagnie de Andy Booth qui est quelqu'un d'assez reconnu dans le milieu équestre. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre travail s'il vous plaît?
Avec grand plaisir, donc peut-être vous entendre que j'ai un léger accent et je suis australien, donc, mais je parle français le mieux que je peux. En Australie, j'ai été passionné de chevaux parce que c'est les animaux que nous on utilise pour gérer le bétail et tout ça dans les grandes exploitations agricoles. Donc j'ai été plus ou moins un cowboy, mais un vrai, dans les grands espaces australiens. Et j'étais très intéressé par le débourrage. Le débourrage, c'est la première partie où on met le sel et on met l'homme sur le cheval pour la première fois dans sa vie. Et ça peut être un petit peu turbulent, ça peut être un vrai stress pour le cheval. Et le plus qu'on apprend dans le 21e siècle sur le comportement de l'animal, le plus qu'on apprend qu'on peut mieux faire, on peut faire ça dans une manière éthique, où il y a moins de danger pour le cheval, moins de danger pour l'homme, pardon, et moins de stress pour le cheval. Donc, mon travail, à la base, c'était le débourrage, et après, c'est devenu plus un enseignant où j'ai éduqué les gens, comment mieux éduquer les chevaux. Donc, si j'ai essayé de réduire mon travail sur quelque chose de très... très courte comme une phrase, je pense que j'aide les gens à mieux comprendre les chevaux.
Donc ça signifie que les personnes qui viennent à votre rencontre, c'est leur démarche de venir vous trouver parce que donc du coup ils rencontrent des difficultés peut-être avec leurs chevaux ou ils sont dans une recherche d'une relation différente?
Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne tournent pas vers une meilleure compréhension de cheval sans être en difficulté d'abord. Ça aurait dû être idéal si les gens pouvaient déjà commencer à apprendre sans forcément avoir un énorme besoin, mais honnêtement, je pense que les gens ils tournent vers une meilleure compréhension de le cheval quand ça ne marche plus. Donc c'est quand les gens sont en difficulté qu'ils cherchent l'aide.
D'accord, très bien. Et donc vous venez d'Australie, est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez choisi la France pour vous installer?
Ben, en fait, en Australie, j'ai regardé différents débrages que j'ai trouvé un petit peu de baba, un petit peu Wild West, on va dire, un petit peu de sauvage, et parfois les chevaux qui souffrent, les hommes qui se blessent et tout ça. Et je me suis dit, il doit avoir une meilleure manière de faire. Et j'ai eu la chance dans les années 80 d'avoir vu un Américain qui est venu des États-Unis en Australie, qui commence à montrer le travail d'un jeune cheval. Et à l'époque, on disait que ces gens-là, c'était des chuchoteurs. Les gens avec un certain don avec le cheval, un certain sens animal, qui pouvait débrouiller le cheval de manière plus fluide, moins sauvage, moins dangereux. Et j'étais très séduit par le travail de cet chuchoteur, donc j'ai parlé avec lui. Il me disait si je pouvais un jour aller aux États-Unis, travailler avec lui, ça aurait dû être avec grand plaisir. Donc j'ai fait le nécessaire et quelques années plus tard, j'ai gagné un bourse par la reine d'Angleterre. C'est une drôle d'histoire, mais en fait, l'Australie se fait partie de le Commonwealth. Donc j'ai écrit une lettre à la reine d'Angleterre en disant en Australie, on débourrait des jeunes chevaux, mais ça manque un petit peu d'évolution. Donc, je veux bien aller aux États-Unis, étudier des chuchoteurs et ramener cette connaissance en Australie. La reine d'Angleterre a sponsorisé cette voyage et cette aventure, qui était très, très gentille à sa part. Et ça m'a permis d'aller aux États-Unis et travailler avec cette chuchoteur. Et finalement, j'ai resté 5 ans. Et je rentrais régulièrement en Australie pour partager l'information et même avec lui. On est parti faire des tournées en Australie avec le chuchoteur américain. Et quelques années plus tard, j'étais encore aux États-Unis en train de travailler avec lui. Et il y avait une proposition en France de faire la même chose, d'amener la même information en France. Donc je me suis dit, bon, j'ai déjà fait ça une fois en Australie, ça va être une belle aventure d'aller en Europe. Je n'ai jamais vu l'Europe, j'ai lu l'histoire quand j'étais jeune. J'ai trouvé, mais quelle aventure d'aller en Europe, apprendre une autre langue, de voir des châteaux qui datent à plusieurs siècles et de voir toute cette histoire. Donc j'ai pris cette opportunité-là et j'ai pris un poste de directeur d'un grand centre équestre près de Paris, où j'ai resté pendant 12 ans, donc jusqu'en 2012.
Très bien. Vous avez un parcours qui a l'air d'une richesse incroyable, ça donne envie. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir partagé votre expérience et puis votre passion peut-être aussi pour le cheval et puis aussi l'enseignement du cheval et des personnes donc, que vous recevez. Donc, je vous dis un grand merci pour cette petite interview et puis je vous souhaite une très bonne continuation.
Merci à vous et bonne continuation à vous tous.
Merci beaucoup.
Grand plaisir.
Et maintenant, je vous laisse avec Nathalie pour les recettes de grand-mère.
Nous retrouvons notre rubrique recettes de grand-mère. Aujourd'hui, nous vous présenterons un cake au citron. Cake au citron. 125 g de beurre, 125 g de sucre, 125 g de farine, 3 œufs, un sachet de levure et un citron. Mélangez le sucre et le beurre ramolli, puis incorporez les œufs entiers un par un. Mélangez la farine et la levure et le mélangez à la préparation. Râpez le zeste de citron et l'ajouter à la préparation. Mettre dans un moule à cake, préalablement beurré, cuire 30 à 35 minutes environ, à four 180 degrés.
Maintenant, je vais vous présenter le texte écrit par Guylain, et nous écoutons en suivant la chanson Trio, l'opportuniste, choisie par Guylain.
Depuis 4 ans, 98.4, et la fréquence radio qui donne la parole à des patients du CHS de Cadillac. Ils se mobilisent environ une fois par semaine, tous les mercredis après-midi de 14h à 15h30. Au menu, interviews, poèmes, culture, discussions, présentations et j'en passe. Dans les conditions réelles, une fois par mois, les patients se déplacent à Sauveterre de Guyenne dans les studios de Radio Entre-deux-Mers. Ils interrogent une personnalité invitée pour l'occasion sur sa spécialité et ses motivations. Pour ma part, je participe à cette manifestation depuis à peu près 6 mois en arrière, en 2018. Je suis arrivé en cours de route alors que l'émission fête maintenant ses 4 ans d'existence. Et nous pouvons compter sur sa 41e programmation. Je suis ravi de faire partie de l'aventure qui est prometteuse sur le domaine de la tolérance. Il n'y a pas de sujet tabou. On peut se retrouver à parler de tout, absolument tout. Et on n'en saura jamais assez. À suivre. On vous donne donc rendez-vous tous les jeudis entre 14h et 15h sur 98.4.
Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne. tourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, de retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné, qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
Nous vous rappelons
que oh, oh, Tunis, au oh, port Tunis.
Non, 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 non.
Oh,
nous vous rappelons que nous sommes toujours sur Radio Entre Deux Mers 98.4 pour cette 41e émission de Pas d'affolement, nous voilà. C'est notre 4e anniversaire. Je rappelle que notre invité est Gérard Gergerès. Moussine.
Maintenant, je vous donne le résultat de top 14 de rugby. Beagle-Bas Grenoble 47-31. La Rochelle a perdu devant 7 Français. 14-27, Perpignan a perdu devant Agen 13-20, Toulon-Bapou 38-11, Toulouse a battu Montpellier 27-14, Castres a battu Racing 18-9, Lyon a battu Clermont 19-13. Voilà le classement maintenant. Premier Toulouse, deuxième Clermont, troisième Lyon, quatrième La Rochelle, 5e Bordeaux, 6e Stade Français, 7e Castres, 8e Racing, 9e Montpellier, 10e Toulon, 11e Pau, 12e Agen, 13e Grenoble et 14e Perpignan.
Merci Oussine. Maintenant, je vous laisse avec notre plume Arca avec ses textes.
Pour vous, Errance Momamba. En deuil tout à la fois, usé dans l'embarras, courbé, bossu, je choix. Dans ma mémoire, j'ai ce qui blesse, dans un tiroir noir, j'ai mes faiblesses. Mais, dans mon cœur, ficelé est mon stress, de ma douceur reste une caresse. Sentence j'ai, trépas, pour l'œil fourbe sournois, allié à certains cas, mais mes refus sans loi. Dans d'illusoires plans ne m'abaisse, et dans mes espoirs sont toute sagesse, tous les bonheurs, toute délicatesse, les jours meilleurs, gestes blancs de tendresse. Pour vous, mes aimés, juste pour vous. À ma mère, je préfère rester loin de toi, Ougère, même si mes sentiments pour toi m'enlièrent. Si la vie, être moi, sans toi, me sent pierre, si je vais seul aux abois sur la terre. Je ne connais presque rien de toi, mystère, pourtant des taches de sang en moi macèrent. Dans mon cœur sont des cris, et moi qui l'enterre. Tout au fond de mes mots, pourquoi et colère. Je ne suis l'enfant dont tu rêvais, vois, que faire. J'ai l'âme trop altérée. Poids, misère, toutes excuses jamais ferai. Crois, l'altière, continue à m'oublier, toi, ma mère.
Maintenant, on a écouté l'interview de Benoît et de Joanna de l'atelier du Ciel Ouvert.
Bonjour, je suis avec Joanna et Benoît. Qui sont de cinéma. Bonjour, merci, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour Ossine.
pourquoi vous êtes venu à Cadillac?
Alors, on est une association qui s'appelle les Ateliers à ciel ouvert et on fait des films participatifs avec des gens différents qui se rencontrent par le biais de l'expérience du tournage. Depuis 2 ans, on travaille autour d'un projet qui s'appelle Lieux communs, c'est un projet culturel, et participe à ce projet le Centre de jour, le GEM en tract et le SAS, mais ont participé aussi le collège, le plage, la MDSI et les habitants de Cadillac. J'espère que j'oublie personne.
La RPA.
La RPA, effectivement. Pardon. Du coup, il nous semblait intéressant de faire un projet ici à Cadillac parce que c'était un village où on trouvait qu'il y avait une belle mixité. Voilà, et que c'était un village où la vie avait l'air agréable. Voilà.
Merci. Et de quoi parle le film?
Bah aussi, tu devrais le savoir. Alors, le film, il parle d'un réalisateur qui arrive dans une petite ville et qui a un grand désir de tourner un film historique parce que dans cette ville, il y a un château notamment qui est un décor assez spectaculaire. Mais ce réalisateur va se retrouver dans un chemin plein d'embûches. Et finalement, il va se retrouver lâché par son producteur, lâché par ses comédiens. Et du coup, il va essayer de bricoler un film comme il peut, avec les moyens du bord.
Merci. Quand est-ce qu'on tourne le film?
Alors le film, on va le tourner, on va commencer à le tourner fin mars. Et il va se dérouler, le tournage, jusqu'à fin juin sûrement. Et il va être étalé sur plusieurs séances de tournage.
Merci.
On a quelque chose, une petite annonce à passer. Parce que pour faire ce film participatif qui rassemble des gens, on a besoin de comédiens et figurants. Et du coup, on va passer une petite annonce. Alors, le casting pour ce film aura lieu fin mars au Cinélux de Cadillac pour un tournage prévu en juin 2019. Si vous êtes intéressé pour vivre cette expérience avec nous, pour postuler, vous pouvez envoyer à l'adresse les ateliers à ciel ouvert tout attaché en minuscules @gmail.com une photo, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, code postal et votre téléphone. Ou vous pouvez nous appeler au 06 29 99 85 59. Dès qu'on aura votre inscription, on vous recontactera pour vous donner les dates d'audition. Merci.
Merci.
Bien, maintenant, nous allons vous ouvrir la page culturelle.
Et maintenant, les infos et la page culturelle. À Auros, à l'abbaye du Rivet, dimanche 24 mars, toute l'après-midi, l'association Des ailes pour Ethanaël organise une manifestation au profit du jeune Ethanaël qui est atteint de la trisomie 21 pour avoir les outils nécessaires liés à sa maladie. À Sauveterre de Guyenne, salle Simone Veil, vendredi 8 mars à 20h30, le théâtre des Salinières présente la pièce Nos femmes, parrainée par Radio Entre-deux-Mers. À Cadillac et proches alentours, le Printemps des Poètes, organisé par l'association Les Passerelles de Cadillac, fête ses 20 ans en ce joli mois de mars du 8 au 23. L'ouverture se fait à Rions, vendredi 8, de 18h à 20h, avec l'atelier d'écriture de Martine Espagnier, intitulé « Des mots pour le dire ». Renseignements au 06 34 51 05 43. Samedi 9, dès 19h30, repas concert organisé par le Cercle de Populaire dans la salle polyvalente avec Fred Battista Trio. Tarif 10 euros. Réservation sur cercle-de-riance@gmail.com ou au 06 21 48 28 10 et vendredi 22 17h à la bibliothèque Musique et Poésie pour grands et petits avec Alexandre Jean, musique de Hang. À Budos, samedi 16 mars de 10h à 12h à la bibliothèque, lecture et jeux poétiques dès 5 ans. À Landiras, actuellement et jusqu'au 23 mars à la bibliothèque, cocon poétique, tout public. Et samedi 23 mars de 16h à 18h, toujours à la bibliothèque, musique, danse et poésie avec la danseuse Isabelle Lasserre et musicien Alexandre Jean. Expo de Ita Duclair suivi d'un apéro rencontre. Réservation à la médiathèque de Podensac 05 56 27 01 58. À Cadillac, village en poésie. La poésie s'invite dans les commerces. Pendant cette période, exposition de peintures et poèmes de Michel Peyré à la MDSI. Et dimanche 10 mars, dès 14h, si le temps le permet, poésie vivante dans les Jardins de l'Œil avec l'artiste peintre Déborah Bourgeon et mise en peinture de poèmes par les jeunes du Plage. Au Cinélux de Cadillac, du 28 février au 19 mars, les films à l'affiche. La Mule, l'incroyable histoire du facteur cheval, Pupille, tout ce qu'il me reste de la Révolution, Dragon 3, Minuscule 2, Deux fils, la chute de l'Empire américain, La Favorite, Ralph 2.0, Green Book, Les Invisibles, Une intime conviction, Le mystère Henri Pic, Vice, Le château de Cagliostro et Les Éternels. Les séances spéciales. Samedi 2 mars, 18h, dans le cadre de l'exposition Mauvaise fille au château de Cadillac, Shirazade, film de Jean-Bernard Marlin. Jeudi 7 mars, 20h30, séance débat en présence de professionnels en partenariat avec la CDC Convergence Garonne. Le temps des aides à domicile, film documentaire de Guillaume Tervert, gratuit. Mercredi 13 mars, 17h30, Grâce à Dieu, film de François Ozon. Et samedi 16 mars, 19h, dans le cadre de la semaine de la fête du court-métrage, Plongeon, avant-programme surprise. Dans le cadre du printemps des poètes, samedi 9 mars, de 14h30 à 17h30, à voix haute, film de Stéphane Defriastas, suivi de poèmes lus et affichés par les jeunes du collège Anatole France et du centre Montalier, intermèdes musicaux et goûters préparés par l'association Entracte, le GEM de Cadillac, tarif 5 euros. Et mercredi 13 mars, de 10h à 11h30, L'homme qui plantait des arbres, film d'animation d'après Jean Giono et compte avec Geneviève Châtelier, tarif 4,20 €.
Bonjour, nous revoilà sur Radio Entre deux Mers. Monsieur Chercheresse, avant de nous quitter, pouvez-vous nous dire comment prendre contact avec vous pour voir votre musée?
Bon, c'est très simple. Pour prendre contact, soit on vient nous voir au musée, carrément, soit on nous appelle au téléphone.
Oui.
Pour prendre un rendez-vous. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone, tant qu'il suit, mais c'est le 05 56 71 21 17 ou le 06 13 98 58 55. Voilà.
Et après, c'est le musée d'artisanat des monuments en allumettes et sciences naturelles.
Voilà, à Fondé.
Je vous remercie. Nous avons été très contents de vous recevoir sur cette chaise, pour cette émission 41e anniversaire. Enfin, 41e émission et 4e anniversaire. Je remercie à tous de nous avoir écoutés, à tous d'avoir participé. Et encore merci d'être venus pour cette occasion. Et merci à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.